On va commencer. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue à cette téléconférence-ci. Le sujet de la téléconférence ce matin, évidemment, c'est différentes approches à la lutte contre la pauvreté. Et puis, dans le courriel qui vous a été envoyé vendredi, il y avait deux rapports qui étaient joints au courriel. Est-ce que tout le monde les a bien reçus?
Oui.
Un des rapports est un rapport de recherche dont Juan Luis Klein était le chercheur principal. Et le deuxième était un état ou un document qui portait sur les différentes politiques canadiennes sur la lutte contre la pauvreté. Donc, tout le monde a eu une chance de regarder un petit peu ça?
Oui.
OK. J'ai une petite introduction à faire au niveau du fonctionnement, finalement, de cette session de téléapprentissage-là. Donc, c'est la 15e session de téléapprentissage du Centre canadien d'économie sociale. Le Centre canadien d'économie sociale est un leadership partagé entre l'Université de Victoria et aussi le Réseau canadien de développement économique communautaire. Et principalement, il s'agit d'un regroupement d'organismes de praticiens en économie sociale et en développement économique communautaire et d'universités canadiennes. Donc, il y a un centre national et il y a aussi 6 centres régionaux dans différentes parties du Canada. Donc, je vais me présenter. Mon nom est Pascale Noglinger et moi, je suis agente de développement économique à Victoria, donc en Colombie-Britannique. Je coordonne aussi la table rurale francophone de la Colombie-Britannique. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au sein de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et je gère aussi une coopérative d'habitation ici à Victoria qui s'appelle Roofs and Roots Housing Co-op. Et j'habite une toute petite communauté le long de la côte sud-ouest de l'île de Vancouver qui s'appelle Jordan River. Donc voilà en ce qui a trait à qui je suis finalement. Et aussi, il faut rappeler que les téléconférences sont possibles finalement à travers le financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Sont entrepris à travers ce financement-là, sont entrepris des projets de recherche pour tenter de mieux comprendre les approches et appliquer ces approches-là au sein de l'économie sociale et pour donner plus d'outils ou davantage d'outils donc aux organismes communautaires, à la société civile, aux gens qui font du développement sur le terrain et aussi dans une approche collaborative avec les instances de recherche, donc les universités, pour nous donner de meilleurs moyens pour se donner plus de pouvoir au niveau des instances canadiennes, provinciales et municipales. OK. Donc, avant qu'on commence, je voudrais vous dire que je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, il va y avoir 2 présentations ce matin, une par Juan Luis Klein et une autre par Ethel Côté. Je vais vous donner un peu plus d'informations sur ces 2 personnes-là. Si vous ne les connaissez pas déjà, ça va vous donner une meilleure idée. Donc, chaque présentation va durer 10 minutes et puis on aura environ 30 minutes à la fin pour débattre, discuter, dialoguer entre nous. Vous pouvez adresser vos questions aux 2 présentateurs. Donc, ça peut être une question qui s'adresse aux 2 ou ça peut être une question qui s'adresse à une seule des présentations, donc un seul des 2 présentateurs. Et ce que je ferai donc à la fin des présentations, je prendrai une liste des personnes qui ont des questions, puis ensuite, pour évidemment assurer que chaque personne a le temps de poser sa question et puis de lancer le débat de cette façon-là. Donc, ça va être la façon qu'on va procéder. Donc, je vais vous présenter maintenant, sans plus tarder, nos 2 présentateurs. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Juan Luis Klein, il est professeur au département de géographie et directeur du Centre des recherches sur les innovations sociales, donc le CRIS à l'UQAM. Il a réalisé des études de premier cycle en histoire et géographie économique à Santiago et il a obtenu une maîtrise et un doctorat en géographie à l'Université Laval. Il mène présentement plusieurs projets de recherche financés par le Conseil de recherche des sciences humaines du Canada et le FRSC, dont je ne sais pas c'est quoi, donc Juan Luis, peut-être que tu auras la chance de nous dire c'est quoi.
Le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.
Ah, OK.
C'est l'équivalent du CRSH,
ouais.
Mais pour le Québec.
Parfait, merci beaucoup. Donc, parmi ces travaux récents, on peut consulter des livres tels Initiatives locales et développement socio-territorial, The Challenge of Social Innovation and Urban Revitalization et l'innovation sociale, ainsi que plusieurs articles et chapitres de livres. Il est aussi responsable de la collection Géographie contemporaine des presses de l'Université du Québec. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques, dont Organisation et territoire, Chicoutimi, Géographie, économie, société, Paris, Revistas Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, qui est de Santiago, et Economía, Sociedad y Territorio, qui est au Mexique. Donc voilà pour... Et puis si je me trompe pas, Juan Luis, c'est toi qui vas en premier ce matin ou c'est elle?
Je pense que ça, on avait dit que c'était elle, mais...
OK, parfait, pardon.
Est-ce okay. que c'est bien ça, Ethel?
Oui, c'est ça. OK, ouais. Pardonne-moi, Ethel. Et donc, maintenant, j'enchaîne avec la biographie de Ethel Côté, donc, qui a été directrice du général du Conseil de la coopération de l'Ontario de 94 à 2000. Elle a ravivé le mouvement coopératif et a appuyé la mise en œuvre d'une trentaine de coopératives de travail, de services et de production. Et elle a soutenu les coopératives agricoles, agroalimentaires, d'habitation et de services de garde à l'enfance. Avec Unitera, Mme Côté a participé à des missions de renforcement des capacités et des compétences au Mali, Niger et au Sénégal pour des réseaux d'économie sociale et solidaire des pays. Elle a également fait partie du comité organisateur de la troisième rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité qui s'est tenue à Dakar en 2005. Mme Côté a enseigné le développement économique communautaire au Collège Boréal, à l'Université Concordia et à l'Université de Hearst. Et elle a mentoré des centaines de communautés de fondateurs et fondatrices d'initiatives de développement socio-économique. Elle est impliquée maintenant pendant plus de 8 ans au sein du Réseau canadien de développement économique communautaire. Mais elle a co-présidé le Conseil national sur les politiques et puis elle fait toujours partie du comité international, donc du réseau. Madame Côté est également membre fondatrice de l'économie solidaire de l'Ontario et du Conseil pour les entreprises sociales du Canada. Et puis, au cours de ces dernières années, elle s'est jointe au Centre canadien pour le renouveau communautaire, dans le cadre duquel elle s'engage à élaborer des solutions et des plans d'adaptation face aux enjeux cruciaux résultant du changement climatique et du pic pétrolier. La priorité du CCRC est de travailler sur des collectivités afin d'augmenter leur résilience. Il s'agit en particulier de renforcer et d'encourager les capacités de ces collectivités à satisfaire le besoin alimentaire, énergétique, financier et en matière de logement de façon équitable. Donc, sans plus tarder, je vous introduis Madame Côté qui va soulever les questions de par son expérience pratique au niveau de en tant que praticienne sur le sujet de la lutte contre la pauvreté. Et puis, je vous demanderai avant qu'elle commence qu'on puisse tous peser sur étoile 6 pour que s'il y a des bruits autour de vous et tout ça, ça ne transparaisse pas dans les appareils finalement. Donc, si tout le monde peut appuyer, sauf les présentateurs, sur étoile 6, ça serait très bien.
Excellent.
OK, donc, Étienne, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Pascal, puis bonjour tout le monde. Je vous avoue que je suis très contente de faire partie de cette session, mais en même temps, pendant quelques secondes, on a aussi une des participantes, qui est Anita Mendel, qui fait partie du groupe de personnes qui ont travaillé sur le recensement des politiques intégrées de lutte contre la pauvreté au Canada et surtout sur certaines provinces qui ont initié dans le domaine. Donc, c'est ça. Ça fait près de 30 ans que je suis impliquée au niveau niveau de l'économie sociale et solidaire et depuis plusieurs années au niveau de l'élaboration de politiques publiques, co-construction de politiques publiques et surtout en Ontario. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau des politiques puis faire un lien aussi au niveau de la pratique concrète au niveau de lutte contre la pauvreté. J'ai 10 minutes puis ce qui est étrange, c'est que je me retrouve à Oshawa pendant 2 jours qui est dans une région en banlieue de Toronto puis pour travailler avec des immigrants francophones et exactement sur leur intégration socio-économique pour encore là contrer la pauvreté et favoriser leur intégration en sol canadien. Tout ça pour vous dire que c'est un beau travail ce recensement de politique parce que la province qui a innové au niveau des politiques, ça a été bien le Québec dès 2002 et avec les efforts du Québec de se donner une loi sur la lutte contre la pauvreté, ben ça fait en sorte que plusieurs années plus tard, en 2006 et en 2008-2009, il y a eu d'autres initiatives dans plusieurs autres provinces. Mais dans les derniers 6 mois, comme vous avez pu lire dans le rapport, il y a eu 3 provinces canadiennes qui ont annoncé l'adoption de politiques de lutte contre la pauvreté. Il y a eu le Manitoba et la Nouvelle-Écosse qui ont lancé des stratégies intégrées. Puis, il y a aussi l'Ontario qui a adopté une loi visant à réduire la pauvreté. Je vous avoue que, ayant travaillé pendant 7 ans peut-être à faire du lobbying avec plusieurs praticiens au réseau canadien, au chantier de l'économie sociale et tout ça, pour la politique qu'on voulait mettre en place pan-canadienne d'économie sociale, et quand on s'est vu de temps toute cette pratique-là, quand on s'associe trop à un parti et que ce parti-là perd son poste, le pouvoir comme tel, puis qu'en même temps, ben tout le travail qu'on a fait pour positionner et tout le démarchage, ben la politique, l'ébauche de politique a aussi s'est évaporée en même temps. Ben, en Ontario, ce qui est intéressant dans notre démarche avec le gouvernement McGuinty, c'est qu'indépendamment des couleurs de parti, l'ensemble du mouvement de la société civile a travaillé pour lobbyer tous les partis, celui au pouvoir, mais aussi les autres partis. Et ce qui est intéressant au niveau de l'Ontario, dans le cadre législatif sur la réduction de la pauvreté, c'est que tous les partis ont voté unanimement pour la mise en œuvre de cette loi-là de 2009. Donc, il y a eu un consentement unanime de tous les partis, et ce qui fait en sorte aussi qu'indépendamment de qui sera au pouvoir, dans les mécanismes de mise en œuvre de cette loi-là, ben ils pensent à des stratégies de révision de la loi, de révision des stratégies, parce qu'ils se disent, ben ce qui va être bon aujourd'hui, il va falloir le réviser dans 3 ans et dans 5 ans pour l'adapter à la réalité mouvante, puis le développement qui se fera. Et mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte, comme ils ont fait au Québec, de l'importance de maintenir un lien direct avec les associations de la société civile impliquées dans les luttes contre la pauvreté, mais aussi directement les personnes qui vivent la pauvreté. Donc, il y a tout un mécanisme dans les suivis pour impliquer les personnes dans des processus consultatifs et de suivre de près l'évolution de la réduction de la pauvreté à tous les 5 ans. Tout ça pour vous dire que à toutes ces provinces-là, bien entendu, il y avait déjà le Québec et Terre-Neuve et Labrador qui, eux, avaient déjà leur politique en place. Et dans le document que vous avez vu, Annika et son équipe avaient produit 2 tableaux. Un tableau plus intensif sur le Québec et l'Ontario, puis un tableau plus exhaustif sur les stratégies de réduction, incluant toutes les autres provinces. Je ne lirai pas, bien entendu, ce document-là. C'est pour ça que, très rapidement, dès qu'on l'a trouvé, on l'a distribué à tout le monde. Mais je vais juste noter certains éléments clés. Entre autres, si vous regardez bien le tableau 2 de stratégie de réduction de la pauvreté, les plans d'action par rapport aux provinces canadiennes, on se rend compte qu'au niveau des stratégies et des plans d'action, bon, l'ensemble des 4 stratégies en place, on parle vraiment de pauvreté, de lutter contre la pauvreté, de réduire la pauvreté, de viser l'inclusion sociale, c'est comme ça qu'on l'utilise, qu'on le traduit au Québec. On parle aussi d'attaquer l'exclusion sociale dans les autres provinces. En Nouvelle-Écosse, on parle aussi de prospérité et de prévention, ce qui est quand même intéressant de voir aussi l'influence de toute la démarche québécoise sur ce qui s'est passé un peu partout au Canada. Donc, ce qui s'est passé au Québec en 2002 a eu de l'impact en 2006 Terre-Neuve et Labrador, puis c'est aussi avec toute la réalité qui se vit dans ces provinces-là. Et ça l'a suivi par la suite en 2008 et 2009 pour les 3 autres provinces. On se rend compte aussi que dans chacune de ces provinces-là, on a appris que c'est important d'engager la communauté et la société civile. Donc, il y a eu vraiment une prise en charge par le milieu et une contribution du milieu pour contribuer à l'élaboration de soit des lois ou des politiques pour réduire la pauvreté. On parle aussi de combattre la pauvreté, de l'attaquer et tout ça. On parle de responsabilité locale en matière de développement économique. On cherche à concilier le développement économique, social, culturel et environnemental. Mais dans plusieurs des politiques, on parle aussi des personnes qui sont marginalisées. On parle aussi que la pauvreté atteint ou touche davantage certaines personnes, entre autres au niveau du genre, les femmes, les communautés racialisées. C'est pour ça que je me retrouve ici à Oshawa. Les nouveaux arrivants, les personnes ayant des handicaps et les autochtones dans certaines provinces plus que d'autres, entre autres en Ontario et au Manitoba. On parle de cohésion sociale et on parle aussi de favoriser l'autonomisation et la responsabilisation des individus et des sociétés. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez aussi au niveau des objectifs, il y a énormément de similitudes sur les secteurs qui ont été nommés, qui demeurent des cibles dans lesquelles les gouvernements, en nommant ces cibles-là, normalement, les gouvernements devraient investir davantage dans ces stratégies-là. Donc, pensant que c'est ces cibles-là, c'est ces thématiques-là, c'est ces secteurs d'activité-là qui peuvent avoir un impact direct sur la lutte contre la pauvreté. Bien entendu, plusieurs de ces cibles-là touchent les besoins de base des individus, que ce soit le logement, par exemple, le revenu, donc associé aussi à l'emploi, et les conditions sociales, les services accessibles, le logement sécuritaire et abordable, excusez-moi, puis les services accessibles aux personnes pour vraiment favoriser leur intégration sociale et économique. Donc, il y a énormément de similitudes. Toutefois, il y a quelques-unes de ces lois et de ces politiques-là ont eu plus d'une inspiration. Moi, je regarde en Ontario, on a regardé ce qui se passait au Québec, puis l'historique de la loi et des politiques qui ont été mises en vigueur depuis 2002. Mais l'Ontario a aussi regardé ce qui se passait dans les autres provinces et aussi même en Angleterre pour voir comment ça se traduisait dans des mécanismes concrets et des stratégies. Ce qui est intéressant, c'est que trois des politiques ont eu un besoin, dans le cadre du processus, de définir ce qu'ils entendaient par rapport à la pauvreté. Et deux des provinces, dont l'Ontario, n'ont pas encore cette définition-là. Puis je peux vous dire qu'en Ontario, c'est quand même assez particulier parce que si on ne s'entend pas sur l'envergure du sujet premier qui est la pauvreté, mais parfois c'est difficile de nommer des actions concrètes qui auront un impact. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a tellement fait de lobbying, le mouvement de l'économie sociale en Ontario, qu'on se retrouve dans le document qui populaire là, de promotion de la nouvelle loi et de les politiques, à nommer, on retrouve le mot entreprise sociale et on retrouve aussi l'achat de produits, de biens et de services auprès des entreprises sociales, ce qu'on appelle en anglais là, le procurement strategies, ce qui est intéressant, mais le fait qu'on n'a pas nécessairement défini ce que c'est la pauvreté, pas comment, quel genre d'entreprises sociales qui vont interpeller, ça va être toutes les entreprises sociales, et quel genre de produits et de services aussi qu'ils vont acheter pour, dans quel domaine, ce qui est quand même bien. Donc, ils ne savent pas comment ils vont le faire, mais la stratégie a été quand même nommée, puis ils cherchent là vraiment, est-ce que ça va être associé à des secteurs d'activité qui auront beaucoup plus d'impact. Donc, on va faire une pierre deux coups en investissant dans les entreprises sociales qui, par elles-mêmes, sont des mécanismes qui sont gérés par des groupes de gens de la communauté qui créent de l'emploi, qui offrent des services de proximité, tout ça. En même temps qu'on investit là-dedans et qu'on aide les personnes qui en font partie, mais on peut avoir aussi des services de proximité puis avoir des effets leviers comme ça. Mais le fait qu'il y a un manque de contenu et de définition, ça a un impact, en tout cas, au niveau des intervenants. Ce qui est intéressant aussi, quand vous regardez le tableau comparatif au niveau des domaines d'intervention, je pense qu'il me reste encore 3-4 minutes, encore là, on nomme relativement les mêmes genres de thématiques et secteurs. On adresse la pauvreté chez les enfants, la pauvreté chez les familles, l'importance au niveau du logement adéquat et accessible, l'importance de la formation associée à l'emploi et la sécurité du revenu. Donc, quand on regarde ces différentes pistes-là, ben, c'est très clair qu'au niveau de l'économie sociale et solidaire, dans notre pratique courante, que ce soit particulièrement particulièrement au Québec parce qu'on a 10 ans de documentation des pratiques et de l'impact de ces pratiques-là, qu'on parle qu'il y a plus de 6300, je crois, entreprises sociales et près de 120 000 emplois créés dans les 10 dernières années. On n'a pas ces chiffres-là encore pour l'ensemble du Canada. On a des chiffres pour l'ensemble du mouvement à but non lucratif, le mouvement volontaire. Mais au-delà de ça, c'est qu'on se rend compte que dans ces thématiques-là qui ont été documentées par les consultations à la base, puis qu'on dit que ça serait les secteurs porteurs pour avoir plus d'impact pour lutter contre la pauvreté, mais il peut avoir, ben, il y a déjà plusieurs pratiques d'économie sociale qui répondent concrètement à ces éléments-là. Si on pense au logement, ben, il y a les coopératives de logement. Quand on parle d'intégration à l'emploi, il y a plusieurs entreprises sociales ou des entreprises affirmatives ou des firmes sociales, il y en, ça dépend de quel angle vous, qui offrent la formation associée à l'expérience de travail. Parfois, ces entreprises sociales-là sont des lieux de transition. Parfois, si on regarde les personnes qui sont marginalisées ayant une déficience intellectuelle ou physique, ça devient des milieux d'emploi qui favorisent encore là une qualité de vie, une intégration sociale et économique, mais aussi une lutte contre la pauvreté. Ce que j'ai trouvé aussi fascinant, c'est qui assume le leadership au sein des différents gouvernements et comment les gouvernements identifient la responsabilité de quel ministère qui va assumer le leadership et comment on va impliquer les autres ministères. Et plusieurs provinces, on parle de, que ce soit le ministère chargé, ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale, le ministère de l'Enfance, le ministère des Ressources humaines. Donc, on voit que le leadership a été donné à différents types de ministères, mais l'approche québécoise, et je crois que c'est aussi dans deux autres provinces, Annika pourra peut-être l'ajouter, mais il y a un engagement, non pas d'un ministère à mettre en œuvre les stratégies, mais l'engagement, c'est vraiment une stratégie interministérielle mobilisant une variété de ministères, reconnaissant que ce n'est pas seulement en fonction de 4 ou 5 thématiques qu'on va vraiment contrer la pauvreté. Pour conclure, on se rend compte que tout ce qui se passe sur ces 5 provinces-là a beaucoup d'impact. Les autres provinces sont en train de rédiger leur propre stratégie. Le gouvernement fédéral n'a toujours pas une politique canadienne, par exemple, pour peut-être amener un autre niveau dans la dynamique. Je reviens de l'Australie. L'Australie regarde beaucoup ce qui se passe au Canada au niveau des politiques sociales et les politiques de lutte contre la pauvreté, mais aussi les politiques ou les programmes d'appui en économie, de reconnaissance et d'appui à l'économie sociale. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, je vais juste conclure là-dessus, on sait que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui met l'humain au cœur du développement. Donc, il est tout à fait évident que la majorité des pratiques que l'on retrouve dans l'économie sociale solidaire, qui est une économie beaucoup plus humaine, favorise l'automisation, la prise en charge et la création de richesses collectives dans nos milieux. Bien, il y a un arrimage là, tout à fait naturel qui se fait par des pratiques concrètes dans presque tous les secteurs qui ont été nommés. Étant donné que les entreprises sociales, comme on sait, sont génératrices de revenus, créatrices d'emplois, et de là, on peut parler des coopératives de travail, exemple de femmes immigrantes qui favorisent autant leur intégration sociale en sol canadien, mais aussi en création d'emplois et d'expérience de travail en sol canadien. Et encore là, ça leur permet de sortir de la pauvreté et possiblement d'être en transition vers un autre milieu de travail. J'ai mentionné les autres types d'entreprises affirmatives et coopératives de logement et tout ça. Mais tout ça pour vous dire que au niveau des politiques et des tendances, l'arrimage naturel entre les politiques et les lois et le mouvement de l'économie sociale solidaire et du développement économique communautaire se fait tout naturellement. Et les acteurs, en tout cas au niveau de l'Ontario et plusieurs membres du Réseau canadien de développement économique communautaire, marchent main dans la main avec le gouvernement pour s'assurer de suivre de près la mise en œuvre de ces politiques et de ces lois-là. Et on ne parle pas nécessairement de réduire la pauvreté, mais qu'on parle même de l'abolir dans les prochaines années au Canada. Il y a même des provinces, entre autres Terre-Neuve, qui vont très loin dans la thématique, l'objectif. Eux autres, ils parlent même, ils sont peut-être la province la plus pauvre présentement, mais d'ici 5 à 10 ans, ils veulent devenir celle qui sera pas en bas de l'échelle, mais vraiment plus au haut de l'échelle au niveau d'un statut économique. Donc, j'ai essayé de brosser pendant 10 minutes et un peu plus le portrait. Je te redonne la parole, Pascal.
Je te remercie beaucoup, Étienne. C'est une perspective donc qui va apporter une autre perspective sur cette même lutte commune-là contre la pauvreté. Donc, je vais maintenant donner la parole à Juan Luis.
Merci. Merci Pascal, merci Ethel, c'est très intéressant. Moi, je vais continuer la réflexion à un autre niveau, mais je dirais plutôt à une autre échelle, ou à un autre niveau, à une autre échelle. Je vais essayer de voir quelles sont les conditions gagnantes des expériences de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui sont lancées par des organisations de la société civile, mais qui en même temps mobilisent des ressources de ressources gouvernementales ou des ressources privées. Et je voudrais avant dire qu'effectivement l'approche québécoise, et c'est très important de le souligner, l'approche québécoise de lutte contre la pauvreté est largement partenariale. Et c'est pour cela que les initiatives locales qui mobilisent des ressources de l'économie sociale ont pu aussi mobiliser des ressources gouvernementales. Et d'autre part, il faut aussi souligner qu'elle est la politique québécoise largement transversale. Et c'est la raison pour laquelle notre projet de recherche, celui dont je parle et dont vous avez eu un rapport, en fait une synthèse générale, a été financé par divers ministères, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère des Affaires municipales et des régions, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et d'autres organisations comme la Société d'habitation du Québec, la Fondation Lucie André Chagnon, le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, et tout cela coiffé par les FQRSC, c'est-à-dire les Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. Alors, la recherche dont je vous parle, qui s'inspire de l'application, en fait, qui cherche à voir l'efficacité de l'application de ces spécificités de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion au Québec, vise donc à voir quelles sont les conditions de succès. C'est notre principal objectif. Et je vais aborder ça en trois temps. Je vais d'abord faire quelques petites considérations préliminaires. Ensuite, je vais parler de la recherche, je vais parler des questions, et je vais parler de la façon comment elle a été réalisée, mais très rapidement. Et ensuite, je vais aller aux réponses. Hein. Alors, les réponses étant les conditions qui permettent aux initiatives locales de réussir. Et par initiative locale, j'entends évidemment l'initiative menée par des organisations de la société civile. Alors, quand je dis considération préliminaire, c'est toute la question de savoir de quoi on parle quand on parle de pauvreté. Et c'est très important parce que au départ, nous sommes lancés dans une recherche sur les écrits concernant cela, sur les indicateurs. Et évidemment, il y a un ensemble de convergences, mais ce qui me paraît, moi, important, c'est que la plupart de ces écrits portent sur des situations un peu statiques, sur des situations, genre pourcentage du revenu par rapport à une moyenne ou par rapport à un ensemble admis dans une société, quantité de produits qu'on peut acheter avec tel ou tel type de revenu, des choses comme ça. Et ça nous a laissé, nous, notre équipe, assez insatisfaits, si bien que nous avons opté pour parler plutôt d'un processus et non pas d'un état. Un processus, surtout que nous, notre approche est territoriale. Alors, ce qui nous importe de voir, c'est comment des acteurs se mobilisent pour vaincre la pauvreté dans leur collectivité. Et ça nous a amené à adopter une approche qui est un peu différente et qui parle du fait que la pauvreté est un processus qui prend des formes spécifiques dans un contexte particulier qui est celui du capitalisme, qui d'ailleurs a toujours existé, mais qui dans le contexte actuel du capitalisme, qui est celui de la nouvelle économie, prend des caractéristiques particulières, et que ce contexte fait en sorte qu'il y a des conditions spécifiques qui provoquent l'appauvrissement des collectivités, la dévitalisation et aussi l'exclusion. Et ces contextes spécifiques sont très largement liés à des réseaux, qui permettent l'accès à l'information, mais aussi l'accès à des services, l'accès à des emplois, l'accès à des revenus, et qui permettent en fait d'être inclus dans la société. Et l'absence ou le fait qu'on soit à l'écart de ces réseaux motive finalement divers niveaux d'exclusion et de pauvreté. Alors on a plutôt parlé d'appauvrissement que de pauvreté, et on a parlé d'exclusion comme processus et non pas d'exclu comme étant un état de situation. Alors, c'est là-dessus, c'est sur ces bases que nous avons enclenché notre recherche avec une interrogation fondamentale qui est celle-ci. Est-ce que les initiatives locales peuvent infléchir les processus qui mènent à l'appauvrissement et à l'exclusion et assurer aux collectivités de vitaliser une meilleure accessibilité aux réseaux qui permettent d'améliorer les conditions et la qualité de vie de leurs citoyens? Alors, on a cette interrogation fondamentale s'est déclinée en trois questions spécifiques. La première étant concernant directement l'économie sociale, et c'est ceci, le rôle que l'économie sociale peut jouer face au processus de dévitalisation. En fait, est-ce que l'économie sociale joue un rôle qui permet de vaincre ou de lutter contre la pauvreté et l'exclusion? La deuxième question spécifique concerne le type d'arrimage à établir entre l'économie sociale et autres types d'actions, dont l'action étatique. Et la troisième question spécifique concerne les modalités qui doit prendre le soutien étatique de façon à ce que les initiatives locales qui s'appuient sur l'économie sociale puissent réussir. Alors, nous avons étudié un certain nombre de cas. En fait, on a étudié 10 cas dans 3 régions québécoises, 5 urbains, 5 cas ruraux. Et je vous passe, vous avez les documents, donc je passe sur les différents cas. Je vais aller directement aux résultats, ce qui me paraît plus intéressant parce que ça permet d'avoir une vision plus globale. Et au besoin, on pourra aller avec sur des éléments plus de détails. Alors, une première chose que nous avons constatée, ça peut paraître une vérité de la palisse, comme on dit, ça peut paraître aller de soi, mais en fait, ça n'allait pas de soi comme tel. C'est que les initiatives locales qui réussissent sont largement dépendantes du fait qu'il y a un leadership approprié. Et par leadership, nous ne voulons pas tomber dans l'histoire de l'individualisme qui règne. Par leadership, nous entendons une capacité d'orienter qui est à la fois individuelle et qui est à la fois sociale. Alors, on a dans tous les cas qui réussissent, parce qu'on avait aussi des cas qui n'ont pas réussi, donc on a pu confronter ces deux types de situations. Dans tous les cas, il y a un bon leader derrière les initiatives. Mais ce leader est quelque part dans une organisation ou dans une structure appropriée qui permet au leadership de s'exprimer et de devenir social. Alors c'est très important parce que le leadership dont on parle concerne à la fois des individus, mais concerne aussi des organisations et concerne aussi des collectivités. Donc c'est un processus qui est un peu évolutif. Il y a d'abord une personne qui agit comme leader, cette personne transfère son leadership ou s'appuie sur une organisation, et cette organisation, en réseau avec d'autres organisations, construit un leadership plus collectif. Alors ce leadership doit être fort tout en laissant la place à la participation et à la créativité individuelle. La deuxième constatation, c'est que la réussite des initiatives dépend de la capacité des leaders et des acteurs locaux de mobiliser une grande diversité de ressources, aussi bien endogènes que exogènes, et surtout de les combiner et de les arrimer. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on parle d'initiatives locales et tout ça, souvent on va penser à cette idée qu'il faut se développer avec les ressources locales, uniquement les ressources du milieu. Nous, ce qu'on voit, c'est que les initiatives, les cas qui nous permettent de voir qu'il y a un progrès dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ce sont des cas où les initiatives locales s'appuient sur le capital social local, mais qui mobilisent aussi des ressources externes, notamment des ressources gouvernementales, mais aussi des ressources privées, et qui les combinent, et qui font comme une sorte d'activité hybride qui combine plusieurs types de façons d'agir, et auxquelles, en réaction en fait à diverses opportunités auxquelles on s'adapte et qui permettent d'apprendre de façon progressive. Le troisième constat, c'est que la réussite des initiatives locales dépend des l'existence d'instances et d'organisations qui permettent de régler localement les conflits entre les acteurs et d'apprendre à agir collectivement. C'est-à-dire que dans tous ces processus de construction d'une réponse locale qui s'appuie sur l'économie sociale et sur d'autres types de ressources, il apparaît des conflits, il apparaît des points de vue différents. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une organisation qui maîtrise le tout et qui permet de transformer les conflits en compromis et de donner une gouvernance aux actions, aux diverses actions d'une collectivité. Le quatrième constat concerne le fait que la réussite des initiatives dépend de l'identification collective d'objectifs stratégiques destinés à utiliser de façon créative les programmes publics et autres structures d'appui au développement des collectivités. Alors ceci est très important parce que des fois, dans certaines organisations, on entend dire qu'il faut rester autonome, il ne faut pas trop s'allier avec l'argent public et tout ça. Il n'y a aucune raison. Hein, ce qui est important, c'est de profiter de l'existence. C'est pour ça que les moyens que la loi québécoise de lutte contre la pauvreté et l'exclusion a mis en place a permis à des organisations et des initiatives de pouvoir aller de l'avant. Mais il y a une condition à cela. Parce que tous n'ont pas pu aller de l'avant. La condition, c'est que l'on utilise les ressources de façon créative. Il y a une des personnes qui a participé à la recherche qui disait, même d'une façon un peu délinquante, mais pas trop délinquante, mais un peu, de façon à pouvoir innover, à créer de nouvelles choses et à assurer un leadership local et non pas s'émouler aux objectifs des programmes gouvernementaux. Le cinquième constat, c'est que la réussite des initiatives locales dépend de la construction d'identités positives et d'une conscience territoriale. Alors vous comprenez que moi, étant géographe, c'est des choses qui ont une qui retentissent dans mes oreilles, hein, ça sonne comme des clochettes, dans la mesure où, effectivement, moi je soutiens depuis longtemps une collectivité qui se mobilise, une collectivité où les membres ont un sentiment d'appartenance et que ce sentiment d'appartenance donne une identité positive. Ce n'est que lorsqu'on est fier d'un milieu et d'une collectivité qu'on s'engage pour son développement et qu'on est capable de s'engager pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Alors, l'identité territoriale apparaît comme un élément extrêmement important. Alors, on avait trois questions spécifiques. Je vais aller pour les réponses à ces questions. La première question est quel rôle l'économie sociale peut jouer face au processus de dévitalisation. On disait au départ, est-ce que ça joue un rôle? La réponse, vous la devinez, hein? Oui, elle joue un rôle. L'économie sociale est une plateforme de lancement et un incubateur d'initiatives. Elle fournit des ressources de base, tels les bénévolat, les savoir-faire, les ressources financières même, la capacité d'intermédiation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et elle fournit aux leaders des projets, vous rappelez, on a parlé de leadership, elle fournit aux leaders des projets le capital social qu'autrement ils ne pourraient pas mobiliser. Mais ce qui est important, c'est que tout en étant essentiel, elle ne suffit pas. C'est-à-dire l'économie sociale ne suffit pas. Elle est essentielle, mais elle ne suffit pas. Alors, elle doit se combiner avec d'autres types de ressources. Et là, il y a la deuxième question, c'est quel type d'arrimage devrait s'établir entre l'économie sociale et l'action étatique. Alors, c'est un arrimage qui devrait... D'abord, c'est un arrimage essentiel qui doit être sous la gouverne des acteurs locaux du leadership local. Hein. C'est un arrimage qui doit être de nature partenariale et qui est un partenariat qui doit être ouvert et non pas un partenariat rigide, contractuel, beaucoup trop rigide pour permettre l'invention, pour permettre la création, pour permettre de donner des réponses à des questions, à des problèmes qu'on n'avait pas prévus au départ et avoir des actions qu'on n'avait pas prévues au départ et qu'on invente à mesure. Et la troisième question spécifique, c'était quelle devrait être les mobilités du soutien étatique. Cette question est centrale la chose la plus importante est qu'il doit s'établir, une relation de confiance qui permet aux acteurs aussi bien locaux qui mobilisent des ressources de l'économie sociale et aux autres acteurs de construire une dynamique collective à la base. Alors, pour cela, il faut que les ressources gouvernementales s'adaptent aux besoins locaux et non pas le contraire. Alors, il y a la question fondamentale, là, c'est finalement, est-ce que l'économie sociale peut infléchir les processus qui mènent à la pauvreté et l'exclusion? Je vous dis, vous ne le savez peut-être pas, mais que sur ce point, il y a un large, en fait, un important débat dans la, disons, la littérature scientifique, si on peut l'appeler comme ça, et certaines discussions...
Juan Luis, je vais devoir, tu vas devoir conclure.
J'ai conclu dans deux minutes.
Ok, parfait.
Parce que je suis en train de dire la dernière chose que je voulais dire.
Oui, non, je voulais juste vous dire que vous êtes à 15 minutes et non plus 10.
Ok. Alors, je disais, donc, est-ce que l'économie sociale peut apporter quelque chose? Je disais qu'il y a un débat parce qu'il y en a qui disent que l'économie sociale, finalement, elle construit une économie de pauvreté et qu'elle ne permet pas de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Nous, notre réponse, c'est que oui, l'économie sociale contribue à la revitalisation des milieux locaux et procure aux communautés des ressources, mais elle ne parvient pas seule à infléchir des tendances à l'appauvrissement et l'exclusion. Elle doit donc être combinée à l'économie publique et privée. Les acteurs doivent mettre en place une stratégie plurielle de développement. Alors, ce qui importe, c'est de penser l'économie sociale comme un dispositif de production de richesses collectives et non pas comme une façon de réduire l'investissement accordé par l'État. Alors, il ne faut surtout pas voir le rôle de l'économie sociale comme un remplacement de l'État. Au contraire, ça doit être une espèce de plateforme qui permet de lancer des initiatives pour aller chercher d'autres ressources et profiter des possibilités que le gouvernement et les autres formes d'acteurs procurent. Alors, le dernier mot, c'est que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion doit compter sur une présence forte de l'État, mais que cette présence doit être flexible de façon à s'arrimer, en fait, la présence de l'État doit s'arrimer aux besoins de collectivité et pas le contraire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup, Juan Luis. Donc, on va procéder maintenant avec les questions. On a 15 minutes à l'horaire. Peut-être qu'on peut ajouter une couple de minutes parce qu'on a commencé tard ce matin. Donc, pour enlever le bouton muet, donc il faut encore peser sur étoile 6. Donc, vous pouvez enlever le mute ou le silence de vos lignes. Donc, on pèse étoile 6 et puis on peut procéder avec les questions.
D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez, donc pour enlever votre la ligne, le mute button, c'est l'étoile et le 6 pour pouvoir parler de nouveau.
Et s'il n'y a pas de questions, moi j'en aurais une envers Annika, si elle revient en ligne, si elle est encore en ligne.
Je viens de revenir, oui.
Annika, je ne vais pas te demander si j'ai été fidèle à votre recherche, parce que j'en ai fait un bref, mais en faisant écho à tout votre travail de recherche, quand vous avez regardé l'ensemble des politiques et l'ensemble des démarches et des mécanismes de mise en œuvre à travers le pays versus tout ce que Juan Luis a mentionné sur l'importance là d'une présence forte de l'État, État est flexible, mais en partenariat, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont parlé davantage, qui confirment des éléments que vous avez trouvés ailleurs en province ou des éléments qui se distinguent, qui sont carrément très différents à cause de la culture, à cause de la dynamique ou à cause aussi du type de mobilisation et des mécanismes qui seront mis en place pour lutter contre la pauvreté?
En fait, c'est drôle parce que j'allais souligner suite à la présentation, aux deux présentations que j'ai trouvées bien intéressantes, j'allais souligner le fait que ça serait une dimension super importante à ajouter, en fait, qui n'est pas vraiment présent dans les tableaux pour l'instant, l'arrimage justement avec l'économie sociale et solidaire, avec tout ce qui existe dehors de l'État, comment que ces politiques-là travaillent en arrimage, comment leur application se fait en partenariat avec ces autres secteurs qui sont essentiels, en fait, quand on veut que ces politiques ont une conséquence sur le plan local et régional. Je peux pas dire en fait que comme ça je pourrais pas. Je pense que je suis ici en toute humilité parce que moi je participais en tant que personne qui a envie d'apprendre de vous et puis je suis très très flattée que le document sert que vous le trouvez pertinent et utile. Je peux pas prétendre d'être experte sur le sujet par contre parce que c'est ça, c'est une analyse sommaire et la question que tu poses était c'est une question très importante à répondre, mais je pourrais pas y répondre ici même. Je pense que c'est une des questions que le document soulève comme question à explorer. C'était un peu ça l'intention, l'objectif de ce document, c'est d'être de plus en plus exhaustif avec l'input des experts comme vous deux finalement, comme vous trois et les autres personnes qui sont au téléphone présentement. J'aimerais souligner la part de Val Morrison qui est aussi présente, qui a donné des commentaires fort utiles, qui travaille sur les politiques sociales à l'intérieur de notre centre. Donc tout ça pour dire que je réponds pas à la question, mais que quand je vous écoutais, je me suis dit ça c'est définitivement une dimension à ajouter, l'arrimage entre les politiques étatiques et leur application avec l'économie sociale et solidaire et les autres secteurs, même le secteur privé par exemple. Quel rôle qu'il joue et quel est l'arrimage qui existe.
Merci beaucoup, Annika. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des participants maintenant?
Je ne sais pas, Pascal, si je suis une participante ou pas, mais est-ce que je peux poser une question cette année?
Ah oui, absolument.
J'ai trouvé la discussion vraiment très intéressante et j'ai une question. Comment traduire ce qui c'est le résultat des recherches et les recommandations qui ont été faites, comment traduire cela pour que les fondations, que les milieux philanthropiques et les gouvernements puissent appuyer les données des recherches.
Sur la mise en œuvre là, des mécanismes identifiés dans les recherches, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, c'est ça, parce que souvent, moi, je me pose la question, c'est que on est toujours en train de parler, on parle dans les silos, et comment est-ce qu'on peut faire pour que que vraiment les recherches influencent vraiment ces milieux, surtout les milieux philanthropiques?
Oui. Est-ce que je peux répondre, en fait, donner quelques éléments tout de suite de réponse à cela?
Oui, absolument, vas-y, Juan Luis.
Il ne faut pas oublier que la recherche qu'on a faite, c'est une recherche qui a été commanditée par des organisations, hein, des ministères, des organisations, dont les fondations, la fondation Chagnon. Et évidemment, c'est eux qui ont commandé la recherche, donc c'est eux qui ont maintenant les différents éléments du rapport. Alors, là, ce que vous avez, c'est un rapport qui nous intéresse, mais cette synthèse est appuyée par 400 pages de documents et d'études des cas. Alors, ça pour dire qu'il y a cet élément-là, et le FQRSC qui est comme l'intermédiaire entre les chercheurs et les organisations, organise aussi des séances de transfert, qu'ils appellent, là, des séances de discussion avec les organisations qui ont commandité la recherche. Bon, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, moi depuis que j'ai fait cette recherche-là, je suis invité à toutes sortes de réunions. Vous savez, au Québec, il y a la revitalisation urbaine intégrée et il y a eu une première réunion il y a deux semaines ou trois des gens qui sont concernés par cela et ils m'ont invité en conférence d'ouverture à faire état de cette recherche. Je suis invité à une autre réunion qui va avoir lieu à Trois-Rivières à la fin novembre, je crois, du même genre. Et ce que je veux dire, c'est que la façon finalement, là, c'est que d'une part, il faut s'assurer qu'on communique les résultats de la recherche aux aux gens qui ont des responsabilités, et eux, ils sont dans les organismes décisionnels, gouvernementaux, mais en même temps, on doit communiquer ces résultats aux organismes qui sont susceptibles de lancer des initiatives, donc des organismes d'économie sociale ou de la société civile. Évidemment, en plus de ça, il y a les publications dans des revues scientifiques et tout ça, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'il faut en même temps agir sur les organisations de la société civile et de l'économie sociale et sur les preneurs de décision. Je ne sais pas si ça répond.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose en tant que modératrice, Annie?
Je peux t'ajouter avant toi, Pascal?
Sure.
Parce que on va finir bientôt. C'est que oubliez pas que chacune des lois ou des politiques qui ont été mises en œuvre ont été faites en fonction de consultations massives dans les communautés, mobilisant l'ensemble des joueurs, non pas seulement des organisations de la société civile, mais très souvent des fondations et aussi parfois, pas partout, mais par le secteur privé aussi, ou même des individus qui jouent des rôles clés dans les communautés. Une chose, c'est que dans la majorité des lois et des politiques, dans les mécanismes de suivi, ils veulent maintenir cette consultation à large pour mobiliser la variété d'acteurs. En Ontario, je peux vous dire que notre stratégie, ça a été vraiment de faire exactement ce que Juan Luis a mentionné, mais c'est d'avoir une approche qui engage l'État, c'est pour ça qu'on a eu une loi, mais aussi qui mobilise l'ensemble des acteurs. Et une des grandes fondations en Ontario, c'est la Fondation Trillium. Il y en a d'autres aussi qu'on a impliquées dans des Funders Forum et tout ça, mais elle a vraiment marché avec nous, l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le milieu Ontario Non-Profit, tout le milieu associatif et aussi d'autres acteurs, les agences sociales et tout ça, plus les organisations qui travaillent au niveau du développement économique communautaire, donc qui mobilisent autant le secteur privé que tous les autres composantes pour le développement des territoires. Et vous savez, l'impact de marcher ensemble pour parler de concrètement de comment on peut mettre en place des stratégies de lutte contre la pauvreté, mais de création de richesses communautaire, bien, la Fondation Trillium a été jusqu'à créer un nouveau fonds d'avenir qui a été pilote une première année, mais qui maintenant va être maintenu, en plus d'intégrer des nouvelles priorités de financement pour soutenir le développement économique et social des communautés les plus marginalisées. Donc, on voit que cette approche qui doit être flexible, je suis d'accord avec Juan Luis que l'État doit avoir une présence forte et avoir une approche flexible, mais une flexibilité doit être applicable à tous les acteurs qui s'impliquent dans cette démarche-là, parce qu'il y a des cultures organisationnelles différentes, il y a des stratégies qui sont différentes, mais la place de chacun est capitale parce que ça va se traduire dans des actions locales qui mobilisent aussi tous les acteurs. Nous, on a travaillé aussi beaucoup au niveau des municipalités, parce que dans les cadres des municipalités, tu as aussi les fondations communautaires qui peuvent aussi investir de façon stratégique. C'est pas des montants des millions et des millions, mais c'est quand même des montants qui sont mobilisés par la communauté, qui sont réinvestis dans la communauté. Donc, il y a des stratégies aussi qui se joue à ce niveau-là, qu'on voit qu'il y a beaucoup d'impact, et on a vu carrément des villages se revitaliser par la mobilisation des acteurs, exactement comme Juan Luis l'a dit, les acteurs du milieu communautaire, les entreprises sociales coopératives et tout qui existaient, qui mettaient leurs compétences et à contribution, la municipalité et la fondation communautaire et d'autres acteurs pour favoriser, sortir le plus de monde là, de la pauvreté et de favoriser la création de richesses communautaires. Donc, ça se passe présentement et il y a tout un mouvement aussi d'entreprises privées, ça rentre sous le chapeau de la responsabilité sociale là, des entreprises, mais qui s'inscrivent aussi dans cette stratégie-là et qui explorent des façons d'investir de façon stratégique dans des exemples concrets de lutte contre la pauvreté. Et ça, ils se collent de très près à tout ce que la société civile est en train de faire. En tout cas, en Ontario, on voit vraiment de nouveaux partenaires qu'on n'avait pas avec nous présentement. Donc, Pascal, vas-y, ma chère.
Tout ce que j'allais dire, c'était que, en tout cas, du point de vue de mon expérience de terrain, c'est moins les interlocuteurs au niveau des fondations et puis, de notre côté aussi, les credit unions qui sont inquiétants. Je pense qu'ils font preuve généralement de plus de flexibilité. C'est au niveau des interlocuteurs étatiques. Puis, d'ailleurs, en lisant votre papier, Juan Luis, je me faisais des notes par rapport à ça parce que les constatations dont vous faites état sont connues depuis très longtemps en matière de, surtout les gens qui sont sur le terrain au niveau du développement. mais c'est tout le temps cette question-là en termes de flexibilité au niveau des ministères qui est un peu, en anglais, on dirait « elusive », donc oui. Qui vient et qui va. Et puis, c'est évident que c'est une nécessité, mais en même temps, semble-t-il que ce soit très difficile à atteindre. Il y a des ministères, des fois, qui vont être des bons joueurs pendant quelques temps, puis ensuite, ils vont devenir des mauvais joueurs. Puis, c'est un cycle. Donc, moi, c'est un petit peu ça que je questionne, en fait, parce que il y a un cycle qui opère, puis il y a un cycle aussi du fait que, par exemple, l'agent de développement est en contact avec des bureaucrates et non avec les agents de changement. Donc, à ce niveau-là, même si à des niveaux plus élevés, the talk of town is changing, au niveau concret, c'est pas le cas. Donc, faut faire attention quand on, tu sais, faut vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on fait ça en réalité dans un contexte qui est ultimement bureaucratique, puis donc la façon dont les choses fonctionnent, quoi qu'elles changent, elles changent lentement. Donc, je te lance la question parce que c'est pas la première fois qu'on va dire qu'on a besoin de plus de flexibilité dans le financement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ça fait longtemps qu'on essaye, donc.
Bon, ici, il y a les expériences de revitalisation urbaine intégrée que je commence à connaître un peu et qui sont assez intéressants dans le domaine urbain. À Montréal, il y a 8 cas de revitalisation urbaine intégrée. Ils sont tous différents. Ils relèvent tous d'une façon, de démarche différente. Mais en milieu rural, il y a aussi des choses intéressantes. Il y a des laboratoires d'innovation en milieu rural que le gouvernement a mis sur place et qui relèvent en fait des actions locales. Hein, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le résultat des... Ils l'ont pas inventé, hein, c'est le résultat des constatations. Alors, effectivement, le fait de le dire, ça va de soi, mais sauf que comme les structures sont rigides, elles, il faut le dire et le dire le plus possible à l'intérieur des structures, de façon à ce qu'on change des cultures qui sont des cultures largement établies, mais qui peuvent changer. Et une des choses qui font que ces cultures peuvent changer, au Québec, c'est clair, il y a une étude importante qui a été faite là-dessus, c'est la mobilité entre le secteur communautaire et le secteur gouvernemental. Dans le domaine de la santé, par exemple, ou dans le domaine environnemental, ou dans le domaine du logement, souvent, des gens qui travaillent dans le milieu communautaire, pour une raison ou une autre, se retrouvent dans des postes dans les milieux gouvernementaux. Et ils vont appliquer cette culture qu'ils avaient dans les milieux communautaires. Mm-hmm. Alors, c'est ça.
Non, mais merci beaucoup, Juan Luis. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à Étienne? Tu avais quelque chose à dire là-dessus?
Non, ben, j'avais fait déjà mon commentaire, merci.
OK. Donc, ça nous amène à conclure. Donc, est-ce que j'ai raté des questions ou est-ce qu'il y avait des derniers mots qui voulaient être dit?
Mais ce qui est peut-être la dernière chose, c'est peut-être de se rendre compte à quel point il y a de l'innovation sociale au niveau de lutte contre la pauvreté en Afrique, en Amérique latine et sur d'autres, en Asie, entre autres. C'est très intéressant ce qui se passe. On a tendance à se tourner vers l'Europe, parfois même vers nos cousins américains, mais ce qui est intéressant, c'est que plus qu'on est en réseau, plus on apprend les uns des autres et des stratégies. Puis, ça va être important de rester au fait, parce qu'on est toujours dans cette démarche-là de continuer à améliorer autant nos pratiques terrain que nos stratégies et nos politiques publiques. Et ça va être important, via les ARUC au Canada, de maintenir ce partage-là d'informations, mais aussi avec les autres centres de recherche, comme ça se fait via le CIRIEC et tout ça. Au niveau des politiques publiques, en tout cas, j'ai vu des choses assez fascinantes en Australie, puis il y aura des partages entre des chercheurs, puis je sais que ça va alimenter notre recherche et notre notre pratique terrain. Donc, ça pour vous dire que continuons ensemble, académiciens et praticiens, à travailler, à documenter ce qui se fait, à explorer dans le temps ce qui devrait se faire, en se retournant aussi vers notre patrimoine et notre histoire, mais aussi en regardant ce qui se passe au niveau de l'innovation dans d'autres pays. Et ce qui est intéressant en Angleterre et en Australie, c'est que on voit qu'après quelques années, ce ne sont plus des stratégies ou des pratiques. Il y a vraiment tout un mouvement qui soutient de façon intégrée des mécanismes et des mises en œuvre qui ont un impact concret sur la lutte contre la pauvreté. Donc, tout ça pour dire que gardons nos yeux ouverts et continuons à travailler. La globalisation de la solidarité a un impact positif dans nos localités et académiciens et praticiens, on gagne à mieux documenter. C'est dommage que les chiffres et les stratégies bien documentées, c'est davantage au Québec, mais encore là, bravo, parce que ça commence à contaminer le restant du Canada pour se rendre compte que plus on documente et plus on évalue l'évolution des choses, plus ça a aussi un impact sur les prochaines années, sur les politiciens qui prennent des décisions pour les prochaines années.
On te remercie beaucoup, Étienne.
Est-ce que je pourrais juste faire un dernier commentaire?
Oui, c'est Annika?
Oui. Okay. En fait, dans le but de continuer à bâtir ce réseau, je propose qu'on, je ne sais pas si c'est possible de mettre nos coordonnées, nos courriels sur une liste pour pouvoir continuer un peu à échanger suite à cette première échange je travaille en santé publique et bon, on est très en lien avec des acteurs qui travaillent en économie sociale, mais en même temps pas tout à fait non plus. Donc c'est d'une grande force pour nous d'avoir des contacts avec des gens dans d'autres milieux pour pouvoir continuer à avancer sur la question de la pauvreté. Si ça convient, en tout cas, j'aimerais beaucoup.
Est-ce qu'il y aurait moyen, Annie ou Ashley, de faire circuler les courriels des participants?
Moi, je suis toujours un peu de mettre les courriels sur un site web parce que les courriels sont facilement utilisés à d'autres fins.
Non, mais Annie, on pourrait juste envoyer un courriel. Ashley pourrait nous envoyer un courriel aux participants et aux personnes ressources avec les courriels dans le A au lieu de adresse camouflée. Et à ce moment-là, juste entre nous, on aurait nos coordonnées.
Oui, c'est bon. On peut faire ça.
OK, parfait. Merci beaucoup. Excellent. Donc, je tiens à souhaiter tout le monde qui a participé, Étienne et Juan Luis. C'est un plaisir. Et puis, je vous souhaite tous un très beau restant de la journée. Et puis, on continue la discussion.
OK. Merci, Pascal. Merci, Étienne. Merci, Ashley. Merci.